Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, pédophilie, comment gérer la libération de la parole. L'Église de France semble aujourd'hui décidée à faire face aux affaires de pédophilie. Des cellules d'accueil et d'écoute commencent à être mises en place dans les différents diocèses. Cet après-midi, le cardinal Philippe Barbarin réunissait à Lyon les prêtres sous son autorité pour évoquer les affaires en cours. Il aura fallu un élément déclencheur à cette prise de conscience, la mise en examen fin janvier d'un prêtre accusé d'agression sexuelle sur des scouts dans les années 70 et 80. Une soixantaine d'agressions, quelques-unes reconnues par leur auteur. Le cardinal Barbarin assure n'avoir été mis au courant qu'en 2007-2008. Les victimes lui reprochent de n'avoir rien fait. Suite à cette affaire, une association s'est créée, La Parole Libérée. Elle recueille des témoignages de victimes d'hommes d'église, témoignages souvent anciens, ce qui pose la question de leur exploitation, les faits étant souvent prescrits. Alors que faire de ces paroles? Comment les recueillir? L'école est, elle aussi, régulièrement confrontée à ce défi. Nous ne laisserons plus rien passer dans l'éducation nationale s'agissant de la pédophilie, a promis la ministre Najat Vallaud-Belkacem vendredi dernier. Une nouvelle loi entrera bientôt en vigueur afin d'améliorer la communication entre ce ministère et celui de la justice. Le texte a été voté après qu'un professeur de mathématiques condamné pour pédophilie en Grande-Bretagne a pu continuer à enseigner en France comme si de rien n'était. Alors pédophilie, comment gérer la libération de la parole? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. Violaine Blin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice du Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger, plus communément connu sous le nom d'Allo Enfance en danger. Le numéro d'appel, il faut le rappeler, c'est le 119. Alors on appelle le 119 pas seulement pour signaler des actes pédophiles, mais notamment pour le faire. Ça représente d'ailleurs quelle proportion à peu près, vous le savez, des appels que vous recevez au 119?
Alors, les atteintes sexuelles sur mineurs, plus particulièrement, effectivement, représentent 2689 enfants sur, on va dire, à peu près 33 500 enfants qui, l'année dernière, par exemple, ont été concernés par des situations de danger ou de risque de danger.
Allez, pour terminer votre présentation, je précise que vous avez été responsable de la cellule de recueil des infos préoccupantes pour le département du Val-de-Marne. Pour discuter avec vous, Hélène Romano, bonsoir.
Bonsoir.
Cette psychologue clinicienne, psychothérapeute, experte auprès des tribunaux, vient d'être publiée sous votre co-direction aux éditions d'Uno, « Danger en protection de l'enfance, déni et instrumentalisation perverse ». Et puis troisième invité, Florence Rau, bonsoir.
Bonsoir.
Avocate pénaliste, vous êtes spécialisée dans la protection de l'enfance, le traitement de la délinquance sexuelle. Vous avez publié un article dernièrement pour le magazine Causeur, intitulé « Affaire Barbarin, l'hystérie médiatique incompatible avec la justice ». Alors c'est autour de ces affaires de pédophilie dans l'Église que je voudrais commencer avec vous, et en particulier sur ces paroles, sur ces témoignages qui arrivent, qui sont, semble-t-il, assez nombreux et qui sont le fait de personnes qui parlent d'actes qui ont été commis de nombreuses années plus tôt, parfois certaines décennies plus tôt. Est-ce que vous êtes surprise, Florence Rau, de voir ces témoignages arriver aussi longtemps après, ou bien est-ce que c'est un phénomène finalement assez fréquent?
Je ne sais pas comment on peut l'analyser. En tout cas, il est certain que plus la parole intervient tard dans le temps et plus judiciairement cette parole sera difficilement traitable, puisque quand on dénonce des faits qui se sont produits il y a 30 ou 40 ans, va se poser un problème d'abord de prescription, bien souvent, et puis ensuite d'administration de la preuve. Il ne s'agit pas de s'émouvoir ou de se scandaliser. Il faut raisonner en matière judiciaire. Donc lorsque l'on porte une parole, lorsqu'on porte une accusation devant les autorités judiciaires, il y a des règles et il faut faire avec ces règles-là. Plus on tarde, il est évident que plus difficile sera le traitement de cette parole, et en tout cas plus difficile sera le travail des enquêteurs et des magistrats pour essayer d'approcher au plus près de la réalité de ce que peut recouvrir cette parole.
Hélène Romano, sur le fait que ces paroles-là soient manifestement extrêmement tardives, est-ce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne? Enfin, en tout cas, le plus souvent comme ça que ça fonctionne, parce qu'il y a une difficulté justement à en parler quand, soit quand les faits se produisent, soit quand ils viennent de se produire?
C'est très fréquent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la temporalité justement du témoignage d'une victime, en particulier d'un enfant victime, on parle d'enfants, ils étaient enfants quand ils ont été agressés, n'est pas du tout, et vous l'avez très bien dit maître, la temporalité judiciaire. Pour une victime, pour un enfant victime, il faut déjà avoir le courage de pouvoir le faire, ce qui n'est pas toujours évident, parce que souvent c'est quelqu'un qui fait autorité, un parent, un proche, et là c'était le cas, quelqu'un qui était délégué d'autorité par les parents de l'enfant. Donc c'est très compliqué de s'opposer à ça, il peut y avoir un processus d'emprise qui fait qu'on n'arrive même pas à concevoir que ce qu'on vit et qu'on subit n'est pas normal. Après, souvent, il y a la honte, la terreur, la peur, et puis aussi quelque chose qui est rarement dit, c'est-à-dire que le fait même d'en parler, ça fait revenir les gestes, les horreurs, etc. Et qu'un très grand nombre d'enfants victimes qui pourraient éventuellement parler, qui des fois ont tenté, ont essayé, et qui ont été renvoyés avec une forme de banalisation, voire un déni de leur entourage, vont croire, penser qu'ils vont pouvoir seuls y arriver. Et la temporalité psychotraumatique fait que dans la vie, il y a des périodes de vulnérabilité, peut-être de transparence psychique, qui fait qu'à ce moment-là, on a besoin d'en parler davantage. Quand on devient parent, quand les enfants atteignent l'âge qu'ils avaient à ce moment-là, ou quand on a connaissance que ceux qui vous ont fait du mal continuent potentiellement d'agir, et c'est ce qui s'est passé. Donc cette temporalité-là, elle est vraiment à comprendre, parce qu'en effet, quand juridiquement il y a des plaintes qui ont lieu 20-30 ans après les faits, c'est très compliqué pour les personnes qui s'engagent dans ces procédures de comprendre que le système pénal n'est pas conçu pour les victimes.
Violaine Blin, est-ce que vous, du coup, vous encouragez à ce que cette prise de parole ait lieu le plus tôt possible à travers le 119 ?
Alors, je crois que, déjà, il faut rappeler que le 119, c'est un service qui permet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an de recevoir des appels. Et justement, dans ce cadre-là, on peut constater parfois que certains enfants, qui représentent à peu près 10% hein, du public qui nous appelle, essaye plusieurs fois, raccroche, essaye une conversation et puis raccroche. Et c'est vrai que, pour rejoindre Dr Romano, cette question de la temporalité, elle fait que, voilà, à un moment, on va avoir la possibilité de mettre des mots sur quelque chose qui est impensable. Hein. Madame Nice, il y a quelques années de ça, avait écrit un livre qui s'appelait « La violence impensable », qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et nous, on va aider, voilà, à permettre à ce que cette parole soit posée. Donc, il n'y a pas forcément, je dirais, à inciter à ce que les choses soient dites tout de suite, parce que chacun fait avec les moyens qu'il a, et en particulier les enfants, avec leur capacité cognitive de verbalisation, etc. Mais en tout cas, on est là, nous, effectivement, pour à tout moment recueillir cette parole.
Alors, il y a des dispositifs comme Allo Enfance en danger qui n'existaient pas il y a plusieurs décennies, ne serait-ce aussi parce que la pédophilie n'avait pas du tout le même statut au sein de la société, ce qui explique aussi peut-être que certaines paroles aujourd'hui se libèrent longtemps après. Je voudrais vous faire écouter simplement l'extrait d'un reportage qui a été diffusé ce matin dans les journaux de France Culture, reportage signé Antoine Marette, avec notamment le témoignage d'une femme qui s'appelle Michelle, qui a eu une relation sexuelle forcée avec un prêtre de 14 à 20 ans, donc c'était son âge à elle. Elle n'a pas porté plainte et il y a une semaine seulement, c'est-à-dire 45 ans après, elle a osé en parler sur le forum de La Parole Libérée. C'est cette association qui vient de se créer tout récemment. Écoutez son témoignage.
Ça m'a soulagée, surtout de mettre mon nom, parce que moi j'ai gardé le silence tout le temps. Et il n'y a personne pour me déculpabiliser, personne pour me dire que c'est pas ma faute, personne pour me dire que c'est un salaud. Et je me suis dit, dans cette association-là, ils vont pas douter, je serai prise comme une victime. Et en fait, ça fait du bien.
Depuis la création de ce site, les témoignages comme celui de Michel se sont multipliés. Bertrand Virieux est le cofondateur de l'association.
Ça a été un appel d'air, c'était une sorte de porte qui s'est ouverte d'un coup. On a même un octogénaire qui nous a raconté une histoire parfaitement détaillée. Il n'avait absolument rien oublié. Et c'est vrai qu'il a transporté cette espèce de charge toute sa vie, douloureuse, sans jamais en parler. Et là, en l'espace de 20 lignes, eh bien, en fait, il pose son sac à dos de souffrance et nous raconte tout. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait, il suffisait qu'on le dise, allez, parlez, et la parole s'est libérée vraiment au sens propre du terme.
Voilà, alors je voudrais revenir sur ce que disait le responsable de cette association, La Parole Libérée, en évoquant le cas de cet octogénaire qui, après une vie bien remplie, se remémore ce qui s'est passé dans sa jeunesse et décide d'en parler. Florence Rolle, il n'y a pas de raison de douter de la sincérité de ce témoignage, mais pour autant, est-ce qu'on peut remettre en cause la véracité de ce qui est raconté. Est-ce qu'on peut en tout cas émettre quelques doutes parce que les années ont passé et que la mémoire, on le sait, peut nous trahir?
Il n'y a pas davantage de raison de ne pas douter que de douter. Qu'est-ce qu'elle recouvre cette parole? Pourquoi avoir attendu 45 ans pour en parler? Quelles sont les motivations de cette personne? Qu'est-ce qu'il a vécu vraiment? Et qu'est-ce qui relève de la réalité vécue il y a 45 ans et de ce qu'il en fait maintenant? Et pourquoi aujourd'hui a-t-il besoin d'avoir, comme cette dame qu'on entend dans le reportage, cette reconnaissance de statut de victime?
Est-ce que c'est autant de questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut aussi les poser quand on recueille la parole à la personne justement qui témoigne? Parce que c'est délicat de demander à quelqu'un, mais pourquoi est-ce que vous avez attendu par exemple aussi longtemps pour en parler?
Et pourquoi est-ce qu'on ne lui poserait pas la question? Pourquoi est-ce que ce serait délicat? Et pourquoi est-ce que dans une... Parce que là, à ce moment-là, on parle d'infraction. Je parle du traitement judiciaire de ce type d'infraction. Pourquoi est-ce que pour ce type d'infraction, on prendrait plus de précautions, plus de gants que dans une autre infraction? Bien sûr qu'il faut savoir pourquoi est-ce qu'une personne attend 45 ans. Et qu'est-ce qu'elle décrit aujourd'hui? Est-ce que ce qu'elle décrit aujourd'hui correspond exactement à ce qui s'est passé il y a 45 ans? Il n'y a aucun moyen de le savoir.
Y a-t-il des raisons de se poser ces questions, Hélène Romano?
La spécificité, ce n'est pas tout à fait une infraction comme une autre, parce que les abus sexuels, en tout cas, détruisent vraiment l'humanité des personnes.
Mais c'est une infraction qui est prévue au code pénal comme les autres infractions.
J'entends bien, c'est justement pour ça que c'est complémentaire, la version juridique. Et puis sur la dimension psychique, ça n'est pas du tout la même chose d'être abusé que d'avoir subi des violences physiques, par exemple. Ça ne vous détruit pas psychiquement de la même façon. Ce que ces témoignages viennent nous rappeler, c'est que le vécu traumatique, c'est un temps hors temps. Quand ils parlent, quand ils témoignent, et c'est souvent des éléments très sensoriels qui sont donnés dans ces situations et qui permettent, moi en tant qu'expert certaines fois, d'avoir des éléments d'authenticité de témoignage, c'est un temps hors temps. Et la mémoire traumatique est un temps suspendu où il y a certaines fois des éléments très précis, sensoriels, qui sont donnés par les victimes, même 40, 50 ans plus tard, parce que ça s'est figé dans leur mémoire. Et la grande difficulté, c'est d'arriver à élaborer, à faire que ça puisse être précis, mais sur toute la continuité, alors que très souvent, les victimes d'événements de ce type-là, d'agressions sexuelles, commises en plus par un adulte faisant autorité, sont des témoignages qui vont avoir des éléments extrêmement précis, mais pas forcément sur toute une continuité. Ils peuvent se rappeler précisément du viol, mais peut-être pas du jour précis, par exemple, ou de l'endroit précis. Donc c'est là-dessus qu'il y a un grand décalage, encore une fois, entre le vécu psychique et les abus sexuels. Mais j'en suis désolée, détruisent psychiquement, il y a suffisamment d'études là-dessus, beaucoup plus que des violences autres, même si pour le code pénal, c'est une infraction. Et l'autre point qui est donné aussi par ces deux témoignages, c'est que la parole libérée n'a aucun sens thérapeutique, n'a rien apaisante si elle est libérée dans le vide. Pour qu'une parole puisse être libérée, et ça le 119 le sait très bien, il faut que la personne en face soit en capacité d'entendre l'inintelligible, de mettre des mots, de protéger et de rassurer l'enfant qui va témoigner ou l'adulte qui témoigne, parce que c'est l'enfant agressé qui témoigne chez ces adultes. Autrement dit, les gens qui révèlent, qui parlent, et certains de l'association que vous citez ont parlé à leurs parents, mais il n'y a pas eu de suite. La parole n'est pas en soi suffisante, il faut l'écoute et l'attention portée, une écoute transitionnelle et réflexive.
C'est l'écoute qui peut être réparatrice, Violaine Blanc?
Alors, je ne sais pas si l'écoute peut être réparatrice, mais par contre, l'écoute doit être à un moment, une capacité, effectivement, de pouvoir rencontrer, même par téléphone, un professionnel. Au 119, nous avons des professionnels de la protection de l'enfance, des psychologues, des juristes, des travailleurs sociaux, qui vont être capables de s'adapter, effectivement, à la temporalité dans laquelle on se situe, puisque soit, effectivement, la violence sexuelle vient de se réaliser, soit elle est très ancienne, et ce sont des situations, notamment, pour lesquelles des adultes nous appellent régulièrement.
Mais vous leur dites quoi d'ailleurs? Alors quand des adultes vous appellent pour évoquer des faits qui sont passés de nombreuses années auparavant, est-ce que vous leur dites non, on va vous réorienter parce que vous n'êtes pas exactement au bon endroit, ou bien est-ce que vous les écoutez presque comme si les faits venaient d'advenir, parce que comme le disait Hélène Romano, c'est quelque chose qui est figé dans leur mémoire?
Alors, on les écoute parce que c'est important effectivement qu'à un moment il y ait cette, comme je le disais tout à l'heure, cette possibilité de mettre des mots sur des choses qui sont quand même très très compliquées à concevoir, d'une part. Et puis, je dirais qu'on n'est pas dans un jugement de valeur ou un questionnement, une mise en doute de leurs paroles. On ne leur dit pas non plus qu'on les croit d'emblée, mais par contre, on leur permet effectivement de déposer leurs faits, leur réalité. Parfois, on essaye d'avoir effectivement des éléments pour contextualiser les choses, mais lorsqu'il s'agit effectivement d'appels d'adultes, on les oriente ensuite sur les associations qui, dans leur département ou au niveau national, sont susceptibles de les accompagner. Certains, notamment au regard de la prescription judiciaire, peuvent encore agir. D'autres ne le peuvent pas, mais néanmoins peuvent être accompagnés par ces associations.
Est-ce que vous diriez, Florence Roux, qu'il y a peut-être aujourd'hui un accueil un peu trop inconditionnel de ces paroles, en tout cas qui mériterait davantage d'investigation au moment de leur réception notamment?
Moi, ce que je constate dans l'exercice qui est le mien, c'est qu'en effet, on a plutôt tendance à accueillir la parole des plaignants comme un fait acquis, sans se poser trop de questions et sans en poser. Je ne vois pas en quoi cela ferait injure à un plaignant ou une plaignante que de lui poser des questions un peu plus élaborées pour essayer de comprendre justement le contexte qui a pu entourer ce retard de prise de parole. Parce que je vois aussi beaucoup de dossiers dans lesquels les enfants savent parler. Alors quand on parle d'enfants, ça va de 2 ans à 18 ans aussi. Hein. Donc il faut savoir de qui on parle. Chaque cas est un peu différent. Il y a des enfants tout petits qui auront difficilement la possibilité de porter une parole, mais il y en a plein d'autres qui sauront décrire, qui sauront dire et qui se souviennent très bien de ce qui s'est passé, qui peuvent effectivement avoir une réticence à parler à leurs parents, par exemple, parce qu'il y a ce sentiment de honte que l'on retrouve souvent, mais qui n'auront pas de difficulté à parler à des amis, à parler à un prof, à parler à quelqu'un qui les entoure. Je crois quand même qu'il faut faire attention et qu'il ne faut pas se dire que toute parole a été censurée d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un n'a pas eu envie de parler, il peut aussi avoir choisi de dépasser cette étape-là et de passer à une étape suivante. Il y a des gens qui ont été victimes de violences, qu'elles soient sexuelles ou pas sexuelles, et qui ont eu cette capacité, cette chance de pouvoir la dépasser. Victime, c'est un nouveau statut social non plus. Il faut pas tout mélanger.
Vous voulez dire que les inciter à parler, ça peut aussi avoir pour effet sur certains individus de les replonger dans un traumatisme qu'ils avaient réussi justement à surmonter?
Certains ont pu réussir à surmonter cette épreuve traumatisme. Peut-être traumatisme ou pas traumatisme, il y a abus sexuel et abus sexuel. Je veux dire, il y a quand même une très grande différence entre quelqu'un qui va vous prendre par l'épaule et puis quelqu'un qui va aller beaucoup plus loin. Donc il faut aussi je crois que quand on recueille cette parole, et il faut recueillir toutes les paroles et il faut les écouter, mais il faut aussi être capable de discernement et être capable de poser des questions comme on pourrait les poser dans n'importe quelle autre situation, pour n'importe quelle autre violence. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Madame Romano quand elle dit que le summum du traumatisme, c'est le traumatisme sexuel. Je suis désolée, mais moi aussi, je suis experte de l'enfance maltraitée et j'ai pu constater malheureusement de nombreux cas de violences qui n'avaient rien de sexuel et qui étaient tout aussi traumatisantes et qui faisaient autant de dégâts.
Vous parliez tout à l'heure des infractions, disant que c'est une infraction comme une autre au niveau des études qui sont faites.
Oui, ce que je veux dire, c'est que l'infraction d'abus sexuel, elle est prévue dans le code pénal comme le vol, comme l'homicide, comme plein d'autres infractions.
Sur l'aspect psychologique, la dimension n'était pas la même. C'est sur un autre registre et vous pouvez reprendre toutes les études qui existent sur les conséquences psychotraumatiques. On sait qu'elles sont d'autant plus traumatogènes par rapport à des actes qu'ils sont de nature sexuelle, qu'ils durent dans le temps, qu'ils sont fréquents et qu'ils sont commis par quelqu'un faisant autorité. Mais je vous rejoins sur le fait que la destructivité psychique, c'est-à-dire la blessure psychique consécutive aux violences, n'est pas corrélée à la qualification pénale. On a des enfants qui subissent des atteintes sexuelles, qui vont être profondément déstructurés psychiquement et certaines fois bien plus que des enfants qui ont subi des viols. Donc là-dessus, là-dessus, nous sommes d'accord. Par contre, sur la question du témoignage de l'enfant, je pense qu'il faut être très prudent. Il ne s'agit pas d'idéaliser, de sacraliser la parole. Il ne s'agit pas non plus de la dénier. Mais il s'agirait d'apprendre aussi à auditionner des enfants, à les entendre à la hauteur de ce qu'ils sont en capacité psychique de dire, en capacité émotionnelle de dire. Vous avez des enfants abusés, puisque c'est notre sujet, par des adultes. C'est tout à fait particulier. Ils sont marqués par la culpabilité. Cette culpabilité peut vraiment les condamner au silence. Et quand on formule certaines questions, par exemple avec le pourquoi, ça peut être hautement culpabilisant, alors que si on reformulait en disant « Est-ce que tu pourrais m'expliquer ?», c'est beaucoup plus facile. Et que ces enfants-là sont particulièrement fragiles psychiquement. Je dis enfants, ça peut être des 2 ans, ça peut être des 17 ans. Le code d'ailleurs dit mineur, il ne différencie pas. Au niveau des auditions d'enfants, et c'est là-dessus qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire, même s'il y en a eu, de pouvoir former les professionnels, que ce soit dans les cellules d'écoute de l'éducation nationale, visiblement du clergé, que ce soit dans les brigades des mineurs, et pour en avoir formé, je sais de quoi je parle, très important de les former à savoir poser les questions de façon non sur-victimisante, parce que les enfants ne sont pas des personnes tout à fait comme des adultes. Ils ont des ressources qui ne sont pas celles des adultes, des capacités qui ne sont pas celles des adultes, des possibilités de s'exprimer qui sont différentes et on ne peut pas non plus les entendre de la même façon qu'un adulte. Ça, c'est quand même important à rappeler.
Violaine Blanc.
Oui, je crois que sur la qualité du recueil de la parole des enfants, on peut peut-être souligner le travail qui a été mené depuis quelques années, pour lequel un rapport est sorti en mai 2014, écrit par l'Observatoire national de l'enfance en danger, sur considérer la parole de l'enfant victime, et c'était une étude sur les unités d'accueil médico-judiciaire qui a démontré comment finalement en confrontant les logiques d'approche qui sont des logiques judiciaires mais qui sont aussi des logiques médicales et de prise en compte de la souffrance, et également dans certains départements la possibilité pour les services de protection de l'enfance d'être présents également, on pouvait finalement travailler en pluridisciplinarité et essayer autant que faire se peut de ne pas reproduire les événements désastreux qu'on a connus dans certaines affaires, où effectivement la répétition du discours, certains types de questions un peu orientées finalement, des questions fermées, etc., ou qui a entraîné une certaine culpabilisation potentielle, comme le disait le docteur Romano, eh bien ont pu être contre-productifs. Donc c'est vrai que je crois que recherche là-dessus.
Quand vous parlez de culpabilisation potentielle, c'est-à-dire culpabiliser l'enfant, ou bien aussi contribuer parfois à émettre de fausses accusations, parce qu'on a évidemment tous en mémoire la fameuse affaire Outreau, bon voilà, qui a été ce que l'on sait sur le plan judiciaire. Mais est-ce que le risque, il est aussi de ce côté-là, c'est-à-dire à la fois peut-être de brider certains enfants et dans d'autres cas justement d'avoir des témoignages qui vont accuser certaines personnes à tort.
Mais je crois justement que ce risque-là, on sait qu'il existe et que voilà, on a pu démontrer que la qualité avec laquelle les professionnels, quels qu'ils soient, j'entends bien de tous les champs, lorsqu'ils intervenaient effectivement dans ce type de questions avec les enfants, étaient susceptibles à un moment de pouvoir soit créer des traumatismes, soit orienter, on va dire, les réponses avec des discours tout faits. Et nous, on voit bien au 119 parfois que les enfants, lorsqu'ils nous appellent, commence par un discours relativement condensé, j'allais dire dans lequel on a l'impression qu'ils veulent nous donner ce qu'on attend d'eux. Et c'est justement par la qualité que les professionnels peuvent mettre en place dans l'écoute des silences, dans le fait que l'émotion à un moment doit pouvoir émerger, et bien qu'on va peut-être aborder les choses différemment.
Donc il y a besoin de traiter ces affaires avec prudence. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, Florence Rowe, que par exemple, cette affaire, enfin ces affaires de pédophilie qui sont révélées au sein de l'Église en France, le sont de manière suffisamment prudente pour qu'on puisse avoir une appréciation assez, fidèle de ce qui a pu véritablement se passer?
Écoutez, je ne sais pas comment elles sont accueillies, ces paroles, et comment elles sont recueillies. Alors pour rebondir sur ce que...
Vous savez comment elles sont médiatisées, en tout cas.
Oui, ça, elles sont médiatisées, mais si vous voulez, moi je suis avocat, donc il y a le volet médiatique, et puis il y a comment ça se passe dans la réalité fait judiciaire et comment sont recueillies toutes ces informations sur procès-verbal par des officiers de police judiciaire. Donc ça, je n'en ai pas la moindre idée et personne ici ne pourrait en avoir la moindre idée. Donc on nous rapporte des choses dans les médias. Moi, ce que je peux constater, c'est que bien souvent, ce qu'on nous rapporte dans les médias ne correspond pas forcément à ce qu'il y a dans un dossier pénal et dans, à la lecture des procès-verbaux, on ne voit pas la même chose. Donc je reste très prudente là-dessus. Je voudrais dire quand même que tout à l'heure, on parlait du recueil de la parole des enfants. Il faut rester prudent. On peut poser des questions à des enfants. Si on leur pose les questions de manière adaptée, il n'y a aucune raison que ça ajoute un traumatisme à un autre traumatisme. Ça, c'est une chose. Et en tout cas, là, on parlait vraiment d'enfants et de mineurs, donc avant 18 ans. Tout à l'heure, sur votre question, il était question de ces gens qui, jusqu'à 80 ans, peuvent dénoncer. Là, on a affaire à des adultes qui dénoncent des faits qu'ils font remonter à leur minorité. Mais on n'est plus devant des enfants dont on doit recueillir la parole. On est face à des adultes qui ont déjà toute une vie devant eux et qui ont peut-être... je ne sais pas, modifier l'histoire, compris les choses différemment. Il y a un vécu, il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas prendre cette parole pour argent comptant sans se poser des questions. Et qu'à ce moment, à ces adultes, on peut leur demander pourquoi ils ont attendu aussi longtemps. Ce n'est pas la même chose que de demander à un enfant de 5 ans pourquoi tu as attendu 6 mois pour dénoncer ce qui t'est arrivé.
Quelle est la responsabilité d'ailleurs de celui ou de celle qui réceptionne cette parole, alors cette parole adulte? Et c'est une question que je vous pose à toutes les trois. Est-ce que, alors au-delà de la discussion qu'il faut avoir avec cette personne, est-ce qu'à partir du moment où on est au courant d'informations, même si ce sont des faits qui sont prescrits, il y a absolument obligation de saisir ou d'avertir la police ou la justice, Florence Roux?
Si c'est un professionnel de santé qui recueille ces informations, a priori, ce professionnel de santé aura le réflexe, probablement, encore qu'il l'apprécie dans le contexte et avec les chances qu'il peut y avoir que quelque chose soit accueilli favorablement par la justice. C'est vrai que dénoncer aujourd'hui quelque chose qui s'est passé il y a 40 ans, ça n'a pas grand sens, au sens judiciaire du terme, parce que ça ne pourra aller nulle part. Donc après, il ne faut pas non plus demander à la justice qu'elle n'est pas capable de donner. Il y a peut-être un autre lieu, peut-être une association pour parler des choses, pour échanger. Ça, c'est un autre débat.
Voilà, c'est ça qui est compliqué aussi. C'est que faire? Comment utiliser cette parole, Violaine Blin?
Oui, alors la loi du 5 mars 2007 a mis en place effectivement le partage d'informations à caractère secret pour permettre déjà entre professionnels de pouvoir échanger sur la question et a mis en place donc, comme vous le citiez, les cellules de recueil d'informations préoccupantes au sein de chaque département. Et les conseils départementaux donc, sont amenés par le biais de ces cellules qu'on appelle des CRIP de recueillir les informations préoccupantes sur les enfants et de donner les suites nécessaires. Et dans ce cadre-là, tout un travail d'évaluation des situations est mis en place avec des professionnels, des travailleurs sociaux, parfois des médecins, des psychologues, pour justement essayer d'évaluer les circonstances. Alors, en fonction des éléments, certaines situations sont directement adressées au parquet des mineurs, qui, lui également, le parquet des mineurs, apprécie et la plupart du temps, enfin ça dépend un petit peu des éléments, est en mesure de diligenter une enquête de police ou de gendarmerie avec voilà les conséquences qu'on peut connaître après au plan judiciaire. Donc une organisation finalement d'un système qui permet une intervention de plusieurs acteurs, d'une chaîne d'acteurs, un croisement des regards. Et c'est vrai que on peut dire que voilà la mise en place de ce système permet de questionner, de réfléchir et de convoquer la pensée sur ces situations.
Hélène Romano.
Oui, je pense que c'est le débat, il est, est-ce qu'il faut passer par le système judiciaire pour se réparer psychiquement quand on a été victime d'abus sexuels? La réponse est très clairement non. Il y a beaucoup de victimes qui s'en sortent sans. En effet, il y a beaucoup de victimes qui vont avant tout avoir besoin de ne pas être statufiées dans cette situation de victime.
Ça même fait si partie... c'est quand même un discours aussi qu'on entend souvent, c'est-à-dire on attend de la justice qu'elle ait une œuvre réparatrice.
C'est le malentendu en France actuellement de cette espèce de victimophilie ambiante qui sous-entendrait qu'il faut être d'être victime pour exister. Un très grand nombre d'enfants qui sont exposés à ce type d'abus, de violence, ont besoin d'être reconnus à un moment donné comme victime, mais surtout pas être condamnés à ce statut-là. Et c'est pour ça que les procédures qui, quand ils sont enfants, sont extrêmement longues, pas du tout adaptées à la temporalité de l'enfant, mais en effet à la temporalité judiciaire, sont souvent source de grandes souffrances pour les enfants. Et à l'âge adulte, où c'est quand même l'enfant en souffrance qui parle, même s'ils ont 80 ans, c'est l'enfant qui souffrait qui parle avec toute le présent du vécu traumatique qui s'exprime. Là, en effet, ça va être la question des preuves, des éléments de preuve. Et on sait parfaitement, je pense qu'on est tous d'accord ici, que les procédures judiciaires, telles qu'elles sont conçues, et c'est la logique judiciaire, ne permettent pas, globalement, à des enfants qui ont été victimes d'abus ou ne sont pas suffisantes, on va le dire comme ça, pour se réparer psychiquement. Et si en effet tout l'accompagnement pluriprofessionnel, que ce soit ce qui se passe dans leur scolarité, ce qui se passe avec les parents, qu'ils soient auteurs ou non, dans ce qui peut être mis en place en tant que médiation familiale, dans la vie sociale de l'enfant, c'est tout ça qui va lui permettre de se reconstruire psychiquement. Et sur une étude que j'ai coordonnée du devenir des victimes d'inceste l'année dernière, sur un certain nombre d'enfants victimes devenus adultes, certaines avaient été prises en charge, d'autres pas du tout prises en charge. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? C'était pas la gravité pénale des abus qui les avait détruits psychiquement, c'était le fait que le parent protecteur les ait déniés, c'est-à-dire à un moment donné les ait lâchés, ne les ait plus crus, ne les ait abandonnés, et le fait que l'auteur n'ait pas reconnu ce qu'il avait fait. Après, les peines de prison, etc., c'est pas le discours des enfants.
Et de toute manière, le temps judiciaire, comme vous le dites tous les trois, est un temps évidemment qui est beaucoup plus long et qui ne peut pas répondre à une situation d'urgence, puisqu'il peut aussi y avoir des cas évidemment où il y a urgence à agir. Alors, il y a une institution qui est régulièrement confrontée à des affaires de pédophilie, c'est l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire quand, par exemple, là aussi, il y a un cas qui est signalé, un enfant ou peut-être un parent d'élève qui va signaler un cas d'abus sexuel à l'encontre d'un élève. Est-ce que l'éducation nationale doit montrer qu'elle prend cette demande ou cette révélation au sérieux en écartant le professionnel qui est incriminé, et est-ce qu'il faut l'écarter de manière à ce que la présomption d'innocence de cette personne soit quand même préservée ? C'est un équilibre extrêmement compliqué à trouver, Florence Faux.
Tellement compliqué à trouver qu'il est quasiment impossible. Donc, dans ce genre de situation que vous décrivez, l'enseignant ou l'éducateur, enfin celui qui sera en contact avec les enfants, sera immédiatement suspendu. C'est comme ça que ça se passe dans l'éducation nationale. Donc on commence par recevoir l'information, et quand l'information est connue, en général, l'enseignant, enfin, ou la personne concernée est convoquée et immédiatement après est suspendue.
Si elle est suspendue, il n'y a plus du tout de confidentialité. C'est très compliqué à maintenir quand même.
Le problème, c'est que la suspension, c'est une suspension administrative. Ça veut dire que cette personne ne peut plus se présenter sur son lieu de travail, donc à l'école, pour être clair. Et que, évidemment, déjà cette absence laisse supposer qu'il y a une culpabilité. Donc, évidemment, la présomption d'innocence, vous pensez bien qu'elle n'existe déjà pas.
Il y a Laurence Rossignol, la secrétaire d'État à la famille, qui dit ceci. Les suspects doivent être mis à l'écart dès qu'il y a un doute, dès que la justice est saisie. Ce n'est pas une affaire de respect de la présomption d'innocence, mais de protection des enfants. Vous en pensez quoi, vous, Florence?
Oui, il faut protéger les enfants, mais il faut aussi respecter les innocents.
En milieu scolaire, vous avez les centres ressources départementaux qui dépendent des académies, qui permettent normalement des évaluations. Déjà, avant toute suspension, il y a des évaluations. Il n'y a jamais eu de suspension sans qu'il y ait une évaluation interne par les équipes médico-psychologiques du milieu scolaire, et souvent avec signalement au CRIP ou signalement au parquet, si nécessaire. Mais en tout cas, il y a déjà une évaluation en interne qui est faite. Il y a eu un énorme travail fourni par le ministère depuis des années pour former les professionnels médecins, psychoscolaires, infirmiers scolaires, assistantes sociales, justement à essayer d'évaluer, parce que les parents ne disent pas « mon enfant est victime d'abus ». Ils vont dire « voilà, mon enfant m'a dit ça, le professeur il a fait ci, il a fait ça », essayer de comprendre, essayer d'évaluer. Donc ça, c'est quand même extrêmement important de le savoir. Les suspensions existent, mais globalement, là, sur un certain nombre d'affaires, elles restent très en deçà du nombre d'enfants qui ont dit des choses qui pourraient paraître inquiétantes. Donc c'est pas un réflexe automatique. Si on voit, ne serait-ce que sur l'Île-de-France, un certain nombre d'affaires en cours, il y a une véritable évaluation sur le terrain pour éviter de victimiser tout le monde. Mais ce qui est très important aussi à savoir, c'est qu'un enfant qui révèle un abus sexuel ou une situation d'abus sexuel en milieu scolaire, il est condamné à changer d'établissement scolaire. Faut aussi avoir ça en tête. Tellement il devient ce mauvais objet de l'institution, qu'il ait eu une parole avec des faits authentiques ou des faits qu'il ait peut-être été différemment.
Florence Roux.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le propos qui vient d'être tenu, parce que moi je peux vous le donner de tous les dossiers que j'ai pu traiter, il y a des suspensions qui sont quasi automatiques.
Oui, parce
dès lors
qu'il y a
que les
déjà
parents
ont
révélé
saisies,
quelque chose.
Ouais.
Non, il n'y a pas forcément déjà des plaintes, et il n'y a pas non plus forcément et systématiquement des évaluations, que peut-être ces évaluations existent en théorie, mais en pratique, ça se traduit très souvent par des suspensions sans préavis et sans évaluation. Je peux donner des exemples très précis, bien sûr, je ne les donnerai pas ici, parce que je ne citerai aucun nom, aucune procédure et aucune académie, mais moi, je les ai vécues en direct, donc ne me dites pas que ça n'existe pas.
Les centres de ressources départementaux font avant tout, c'est d'ailleurs dans toutes les circulaires du ministère de l'Éducation nationale.
Oui, ça c'est dans la circulaire,
avant, mais pas sur le terrain. La moindre suspension, sur le terrain, je suis sur le terrain également,
bien
il y a
sûr.
L'obligation d'avoir évalué et d'avoir au moins l'avis du centre de ressources
départementales. Ça on le discute quand on est devant le tribunal administratif et qu'on conteste la suspension, mais en tout cas sur le moment, c'est pas ça qui prévaut.
À Yolaine Blanc.
Oui, alors on parlait tout à l'heure un petit peu de l'impact médiatique, on va dire, sur ce type de problématique. C'est vrai que là, actuellement, on parle beaucoup des faits dans l'éducation nationale. Moi, si je regarde les chiffres que nous avons au 119, au SNATED, on peut quand même constater que 75% des auteurs de violences sexuelles sur mineurs se situent dans la famille. Qu'on a 16% qui sont dans l'entourage proche.
Alors ça tombe très bien que vous parliez de ça, parce qu'on est presque à la fin de l'émission et je voulais quand même pas qu'on termine sans parler justement du cercle familial, qui est aussi une institution, comme l'Église, comme l'éducation nationale. C'est une institution certes symbolique, mais justement, comment est-ce qu'on fait face à la libération de cette parole, puisque c'est la question qu'on pose ce soir, et comment est-ce qu'on écarte, ne serait-ce que provisoirement, un adulte qui peut menacer l'intégrité physique d'un enfant ?
Alors déjà, c'est quand même très compliqué quand même pour l'enfant de faire cette transgression-là. Hein. On est vraiment dans un conflit de loyauté extrêmement fort pour l'enfant qui va être amené à dire voilà, ce que son père, sa mère, son oncle, son frère, son grand frère a pu faire. Donc c'est quelque chose de très transgressif pour lui. Et c'est vrai que dans ce genre de situation, voilà, on doit pouvoir, et les acteurs qui travaillent sur cette chaîne de responsabilité, je pense notamment au parquet des mineurs, peut avoir la possibilité, s'il le décide au regard de l'intégrité physique de l'enfant, de décider effectivement qu'il soit provisoirement placé et confié à l'aide sociale à l'enfance, si effectivement les faits sont suffisamment étayés pour considérer que le danger nécessite de le faire sortir, comme vous le disiez, de son milieu familial.
Alors c'est vrai, et merci d'avoir fait cette précision, les abus sont en majeure partie constatés dans la cellule intrafamiliale et dans cet entourage proche, parce qu'on a l'impression, en tout cas à entendre la presse, que ça ne se situe que dans l'éducation nationale et que dans le clergé. Or, c'est plutôt minoritaire, même si on en parle majoritairement en ce moment. En tout cas, il y a aussi, il faut le savoir, des mesures qui permettent, par exemple, à une mère de solliciter d'un juge une mesure d'éloignement du mari, par exemple, ou du parent indélicat. Donc, il y a des textes qui permettent d'adopter un certain nombre de mesures, et puis il y a aussi les mesures de placement. Et c'est vrai que, même si, malheureusement, les organismes destinés à cela ne sont pas suffisamment nombreux, ils ne peuvent pas placer autant que nécessaire, c'est aussi une très bonne solution. Mais c'est vrai que dans la famille, ce sera peut-être plus difficile d'écarter la mauvaise personne que dans les autres milieux, où là, on l'a vu, ça peut aller plus vite.
Qu'est-ce qu'il faut dire, Hélène Romano, à ses enfants quand on leur parle de pédophilie ? Est-ce qu'il faut, là aussi, faire une forme de prévention, mais au sein du cercle familial, en leur disant, en leur en parlant peut-être régulièrement pour qu'ils puissent, le cas échéant, en parler relativement facilement ? Comment est-ce qu'on fait ?
Il y a différentes choses qui peuvent être faites, ne serait-ce qu'au niveau de l'éducation familiale. Mais quand c'est l'éducation familiale qui dysfonctionne avec des comportements incestuels, vous imaginez bien que les parents ne sont pas forcément les mieux à même pour pouvoir expliquer à leur enfant ce qu'est l'intimité, ce qu'est le respect de son corps, le respect du corps de l'autre. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de choses de mise en place en termes de prévention en milieu scolaire, depuis des années aussi, même si c'est perfectible. Donc c'est tout ce maillage-là qui est important pour les enfants, qui ne restent pas condamnés à leur statut en effet, et que les adultes des différentes institutions puissent les prendre en charge.
Violaine Blin, pour conclure.
Écoutez, pour conclure, je crois que c'est important voilà, de rappeler l'existence de ce service qui existe depuis près de 25 ans maintenant, qui a reçu presque 750 000 appels depuis 25 ans et qui voilà, permettra, et j'espère encore longtemps, aux victimes, à ceux qui entourent l'enfant, de pouvoir poser effectivement ce qui a été pour certains un traumatisme fort et qui en tout état de cause reste quelque chose de très difficile à...
Dernier point pour illustrer, on parlait du signalement tout à l'heure, on voit la différence entre la logique judiciaire et la logique psychique d'un enfant victime. Il peut être placé, c'est important certaines fois pour le protéger, mais si on ne fait pas un travail thérapeutique pour l'aider à mettre du sens sur ce qu'il a vécu et à s'en dégager, c'est comme un poison qui continue véritablement de le blesser très durablement. Donc le placement n'est pas suffisant, il y a un véritable travail d'accompagnement à faire. Et en France, on est par exemple dans l'idéologie du lien qui continue de contraindre des enfants placés à avoir des parents incestueux par exemple.
Ah ben merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette discussion, Florence Rowe, Hélène Romano et Violaine Blin. Hélène Romano, je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Dunod, Danger en protection de l'enfance, déni et instrumentalisation perverse. Émission que vous pouvez réécouter, commenter comme chaque jour sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richet, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Mathilde Barbier, Hugo Florent. Émission réalisée par Anne Kobilac avec à la prise de son ce soir Pierrick Monsigny. Demain, Emmanuel Macron est-il un bon ministre de l'économie? Nous en parlerons, nous poserons la question à 18h20.